Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, ça va être bien puisque je reçois Fab Caro, l'auteur de Zaï 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 ou du discours, ou plutôt Fabrice Caro, parce que là c'est un roman et dans ces cas-là, il retrouve son vrai nom. Visite de bibliothèque aussi bien sûr, celle de Bartabas, vous allez voir, ça vaut le détour. Et puis Héloïse Goy fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. C'est toujours un plaisir de le lire et de le recevoir. Fabrice Caro, connu aussi sous le nom de Fab Caro quand il écrit de la bande dessinée, publie un nouveau roman après Le Discours et Broadway. Voici Samouraï, l'histoire d'Alan, un romancier qui s'est mis en tête d'écrire un roman sérieux depuis que sa copine l'a quitté pour un universitaire spécialiste de ronsard. Alors il va y aller, il se prépare, il va écrire un roman profond, un livre qui vous prend aux tripes et qui révèle le sel de la vie. Mais ça, c'était sans compter les obstacles qui se dressent devant lui. Il va devoir les affronter tel un samouraï. Bonjour Fabrice Caro.
Bonjour.
Déjà, on voit que quand vous écrivez des romans, pour vous aussi, comme pour Alan, c'est sérieux. C'est pas Fab Caro, hein. C'est Fabrice Caro, attention.
Ah oui, non, je marque bien la différence, ouais.
Pourquoi ? Après,
c'est pas tellement une histoire de sérieux ou pas, oui, ça pourrait faire un petit peu côté, c'est plus légitime de mettre le nom d'état civil. Non, c'est vraiment pour marquer la différence, mais plus par rapport au lecteur. C'est pour pas tromper le lecteur, en fait. Que le lecteur se dise pas, ah, je vais lire du Fab Caro. C'est pas tout à fait pareil, donc c'est pour annoncer un petit peu la couleur, oui.
C'est pas un fantasme de super-héros d'avoir une double identité comme ça?
Ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être le côté Romain Gary, quoique là non, parce qu'on sait que c'est bien.
Mais parce que c'est grillé. Mais...
ouais, il y a peut-être ça aussi, la double identité. Ouais.
Je précise une nouvelle fois aux auditeurs que nous n'avons aucun lien de parenté, c'est pas la même orthographe.
Ah ouais.
C'était quoi le point de départ de ce livre? Vous vouliez écrire une grande fresque médiévale épique avec des combats au sabre, avec des samouraïs et tout. Et puis bon, finalement, vous vous êtes dit... Oh, parce qu'il y a très peu de samouraïs dans Samouraï.
Il y a
finalement.
Très peu de samouraïs, ouais. D'ailleurs, je fais souvent ça. Le titre me plaisait et j'ai réussi à justifier le titre. Mais souvent, je pars d'un titre qui n'a rien à voir, je justifie.
Broadway, c'était un peu pareil. Ouais.
Broadway, c'est un petit peu pareil aussi. Enfin, là, je révèle un petit peu mes petits trucs.
Quoique le discours, c'était très discours.
Pour le coup, le discours, oui, c'était en plein dans le... Mais alors, le point de départ, là, je ne sais jamais comment ça part, un projet. Mais je crois que j'avais envie d'écrire un roman d'été. Parce que mes romans sont jamais vraiment situés dans l'époque. Et là, j'avais envie d'un truc un petit peu, ouais, estival. Ouais. Avec une piscine, un truc comme ça. La piscine prend beaucoup de place, d'ailleurs.
Ouais. Et puis l'été aussi, c'est vrai qu'on a chaud en lisant le livre, quoi.
Ouais, et il se trouve que souvent, alors, hasard de calendrier, ou mes débuts de romans, j'attaque toujours, fin juin, début juillet. Je me lance, je me dis, tiens, voilà, qu'est-ce que... Donc là, j'étais dans l'été, j'avais envie d'écrire un roman d'été.
Eh bien justement, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi un livre sur comment démarrer un livre. Mais ça, on va y venir, parce qu'on commence par la première page, et ça commence très très mal pour le héros. Son ami d'enfance s'est suicidé, Lisa donc l'a quitté, c'était sa copine, et une météorite menace de percuter la Terre. C'est la loi des séries, finalement, pour Alan. On sent que ça vous perturbe un peu, cette histoire de condenser d'ennui en même temps. Enfin, vous en tirez en tout cas des conclusions, comme souvent dans vos livres, rien n'est gratuit. C'est-à-dire qu'il y a des observations en général pertinentes du monde de la vie.
Ouais, c'est la fameuse loi de Murphy, c'est ça?
Ouais, j'aime bien. De l'emmerdement général.
Ouais, c'est ça. J'aime bien que mes héros soient un petit peu ensevelis, étouffés, empêchés, comme ça. Qu'ils aient des. Ouais, qu'ils s'en sortent pas. Je trouve que d'un point de vue narratif, c'est plus amusant à écrire que quelqu'un qui réussit tout et pour qui tout va bien. Quoi.
Et alors donc, il voudrait écrire un roman sérieux, mais il y a plusieurs obstacles, et notamment, on est en été, les voisins du héros lui ont demandé de surveiller leur piscine. Au passage, on se demande effectivement qu'est-ce que ça veut dire de surveiller une piscine, ça ne veut pas dire grand-chose. D'autant que Alan, bon, il a quelques névroses, quelques angoisses, et lui, une piscine, ça lui fait penser à la mort.
Ouais, c'est un petit peu... Ouais, bien. Comme dans tous mes romans, je sème pas mal de petits trucs autobiographiques, et ça c'est un truc, le rapport à l'eau, le rapport à la piscine, c'est un truc, ouais, c'est ça, moi je trouve ça assez inutile, enfin, dès que je suis dans l'eau, Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là?
C'est l'ennui total.
Quel est le but? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que c'est censé m'apporter, en fait?
Ah, donc c'est un peu vous, Alan, encore une fois.
Alors, un petit peu moi. Mes personnages, c'est toujours un petit peu moi, mais j'espère en pire. Je pousse mes névroses. Je pars de petites névroses que j'ai, mais que j'amplifie, que je pousse au max. Enfin, j'espère que mes romans sont pas... Enfin, que mes personnages ne sont pas moi à 100%, sinon ce serait terrible.
Alors, bon, bah, cette piscine, il y a juste deux galettes chlore à mettre une fois par semaine. Bon, ce n'est pas non plus très compliqué, mais quand il arrive dans cette piscine, il n'a pas du tout envie de plonger dedans comme ses voisins lui ont proposé. Mais en revanche, il y a une terrasse avec des belles dalles jaunes, comme dans le sud, et puis une terrasse en teck, avec une table en teck, et sur laquelle il se verrait bien écrire. Et je vous cite, « Je me visualise attablé sous le store devant mon ordinateur, cintré dans un peignoir brodé de mes initiales, un thé à la menthe dans la main, une cigarette dans l'autre, le regard tendu vers l'œuvre, à l'instar des enfants qui se targuent d'avoir des chaussures qui courent vite. Il me semble que cette terrasse pourrait écrire quelque chose de qualité. » Et en fait, on se dit que là, effectivement, comme la métaphore des gamins qui ont des chaussures qui courent vite, est-ce que ça compte pour vous la panoplie, quoi? Enfin, l'idée de l'écrivain qui est en train d'écrire, est-ce que ça aide?
Ouais, oui, ça compte beaucoup. Le cadre, l'espèce de cérémonial. Alors, pour le coup, moi, mon cérémonial, c'est pas celui-là. Moi, j'ai plus un cérémonial plus intérieur, plus douillé, plus... Bon, moi, j'écris sur un petit ordi, sur une table à l'intérieur, dans mon salon. Mais là, c'est un petit peu le fantasme de l'écrivain en robe de chambre avec sur la Riviera, comme ça. Donc lui, cette terrasse de suite, ça lui inspire ça, quoi. L'écrivain, le grand écrivain sur la Côte d'Azur, quoi.
Il y a aussi un écrivain en peignoir, mais beaucoup moins chic. Mais le ton du roman m'y a fait penser. C'est Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique de Philippe de Broca.
Ah, c'est vrai.
Et il y a vraiment un truc comme ça, en fait, dans vos romans.
Ah,
en général.
Ouais. Ah, c'est possible. J'avais pas fait le lien, mais j'adore ce film. Ouais. Le côté mec qui écrit avec sa petite machine à écrire, voilà. Il pleut tout le temps.
Et puis qui met surtout plein d'événements de sa vie dans son roman, quoi. Au fur et à mesure, le plombier vient pas, il fait tuer le plombier dans son roman.
Ouais, c'est ça. J'avais pas fait le lien, mais c'est ça. Puis ce fantasme d'auteur, de faire arriver tout ce qu'on aimerait qu'il arrive, quoi.
Et alors justement. Souvent, les écrivains mettent un peu d'eux et de leurs proches dans les romans. Et en fait, Alan, il en a marre parce qu'il a écrit un roman qui ne s'est pas bien vendu du tout. Il y a même eu zéro vente, ce qui est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'édition. Enfin, ça, c'est un rêve qu'il fait plus tard. Mais s'il a quand même eu un petit article dans Biba et tout, mais enfin, ça n'a pas déclenché des foules de signatures. Et surtout, les rares qui l'ont lu, sont ceux qui veulent se reconnaître dedans ou qui lui en veulent de les avoir mis dedans. Et ça, c'est un truc souvent qui arrive aux romanciers, les proches qui disent « ça, c'est moi, ça ».
Ouais. Surtout que moi, encore une fois, je pars sur un thème très, très, un fil rouge très, très, très mince, et après, je mets beaucoup de moi. C'est à l'impro, je mets beaucoup de moi. Et forcément, il y a des anecdotes qui me sont vraiment arrivées. Alors, j'essaie de faire gaffe, j'essaie de changer des petites choses, mais j'ai déjà eu des retours. Je crois que c'est après. C'est après Broadway. J'ai un mail d'une ex-petite amie qui m'a dit, presque je me suis fait engueuler, qui m'a dit mais pourquoi t'as raconté cette histoire? J'ai dit, mais non, mais ça n'a rien à voir. Alors que si, ça avait un petit peu à voir quand même.
Parce que là, dans le roman, c'est une certaine Léa, dans la vérité, dans la réalité. Et dans le roman, il l'a juste appelée Cléa.
Oui.
Bon, c'est sûr. Que...
Il change pas grand-chose.
Et l'anecdote n'est pas très glorieuse, quoi. C'est pas la même, rassurez-moi.
C'est pas la même, non, mais non.
Restez avec nous, Fabrice Caro. Dans un instant, on revient à Samouraï.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre, toujours avec Fabrice Caro pour Samouraï. C'est chez Signe, la collection Signe, très chic chez Gallimard. Très élégante cette collection avec une très belle couverture. Là, c'est l'histoire d'Alan, qui est un romancier, mais sa copine l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard. Et elle lui a dit, essaye d'écrire plutôt des romans sérieux, franchement. Et donc, il se met en tête d'écrire un roman sérieux. C'est quoi un roman sérieux, Fabrice Caro?
Oh là là, un roman sérieux. Alors,
il ne le sait pas vraiment lui-même.
Il ne le sait pas vraiment, ouais. Moi, en tant que lecteur, moi, je sais faire que des choses avec de l'humour, mais en tant que lecteur, je peux et même, j'adore lire des romans sérieux. C'est-à-dire, je ne sais pas si vraiment ça existe, des romans vraiment dépourvus d'humour. Je ne crois pas, il y a toujours une petite pointe. Non, pas toujours, ouais. Non, ça existe. Mais... moi, en tant qu'auteur, je crois que j'ai besoin de passer... C'est un outil de pudique, je crois, à l'humour. Grâce à l'humour, on peut se permettre de parler de beaucoup de choses. que je ne pourrais pas aborder sans l'humour. C'est un outil, ouais, c'est un outil assez pratique, en fait.
Mais alors, justement, c'est intéressant parce que sans arrêt, pendant le roman que nous, on lit, on le voit, Alan, chercher son idée de roman sérieux et tout peut lui donner une idée pour faire un roman sérieux. Et donc, il y a plein d'idées de romans sérieux. Et notamment, il y en a une particulièrement qui tient bien le coup, c'est les racines, ses racines et l'histoire de ses grands-parents en Espagne et tout. Et le roman s'appellerait « Sol y sangre ». Et il le dit à voix haute, il trouve que ça sonne bien ça, mais il n'arrive jamais à le commencer.
Ouais, il fantasme beaucoup ce roman qui parlerait de... Pour lui, c'est ça, le roman sérieux ultime. C'est les racines, c'est la famille, c'est les immigrés. C'est... Donc voilà, il passe beaucoup plus de temps à fantasmer ce livre et à prononcer le titre à voix haute qu'à l'écrire, parce qu'au final, il écrit... Enfin, on ne va pas trop spoiler, mais au final, il n'écrit pas trop.
Mais en fait, vous en profitez aussi pour faire un peu le tour des névroses et des angoisses d'écrivains, parce qu'il fait des rêves où il s'imagine dans des situations une fois que son roman sérieux sera publié. Et notamment, il est chez le camarade François Bunel dans la grande librairie. Il y a quatre écrivains sérieux et lui, mais lui qui est dans un coin et qui rigole quand il ne faut pas rigoler, qui ne se comporte jamais comme il faut, puis surtout qui ne parle pas parce qu'il ne sait pas quoi dire.
Ouais, bon, ça c'est parti de... Alors moi, je suis hyper timide, donc je refuse les télés, mais j'ai fait une télé, c'était chez François Bunel. Et donc, je suis parti d'une situation que j'ai extrapolée. J'étais sur une chaise un petit peu à part. Et j'étais tétanisé, j'étais vraiment tétanisé. Et j'ai extrapolé cette situation. Le gars qui se retrouve à part, mais à part à tel point que même on recule sa chaise à mesure. Il est de plus en plus loin du plateau. Donc c'est vraiment la phobie de l'auteur sur un plateau de télé.
Et puis de rigoler quand en fait c'est très sérieux et que ça parle de sujets graves.
Voilà, être décalé. Il est tellement loin que quand il rigole, ils ont déjà parlé de quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Et alors il y a une autre angoisse, c'est que c'est toujours un rêve, mais il va voir son éditrice qui s'est occupée de son roman sérieux. D'ailleurs, il écrit sans arrêt à son éditrice pour lui dire « Finalement, mon roman sérieux, ça va être ça, plutôt que ça, etc. » Et enfin, bref, dans son rêve, il va voir les résultats de vente et il lui arrive un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'édition, c'est-à-dire qu'il fait zéro vente. Et ça, c'est une de vos angoisses ?
Une de mes angoisses ? Non, zéro, je crois pas. On fait toujours une petite cinquantaine, centaine au minimum. Bah, zéro, ça n'existe.
Ça marche très mal, oui, c'est 100, 200, quoi.
Ouais, mais j'imaginais la phobie, pareil, la phobie ultime, le cauchemar de l'auteur qui sort son roman et puis personne l'achète, mais vraiment personne. Ouais, le cauchemar ultime. Ouais.
Non, mais parce que c'est pas un secret qu'aujourd'hui vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes, mais j'imagine que ça n'a pas commencé comme ça. Est-ce que c'est cette vieille angoisse-là qui revient ?
Oh, c'est possible. Moi, je me rappelle.
C'est pas une séance de psy, hein, mais.
Ouais, non, mais c'est possible. Ça doit venir de loin. Mais tout premier livre, moi, je me ruais sur. On va pas dire le nom, sur un site de vendeurs en ligne. Il y a une espèce de classement comme ça pour voir si ça se vendait, quoi. Alors, si j'étais 100 000e, je disais, super, 100 000e. Pour moi, c'était super. J'étais classé. Bon, ça m'a passé, mais au tout début, on a cette espèce d'angoisse que ça intéresse personne.
Et est-ce qu'on a l'angoisse que ça s'arrête quand on est 5-6e maintenant du classement?
Oh, on l'a toujours, je crois. On a c'est inhérent au truc d'artiste. On se dit, c'est une espèce d'angoisse. Et en même temps, c'est pas une angoisse, c'est presque une fatalité. Moi, je me dis, c'est une espèce de cloche comme ça. Puis à un moment, ça va se casser la figure. On va forcément redescendre. Mais voilà, il faut juste profiter du moment et pas essayer de trop se projeter.
Et pour revenir aux interviews, il y a des moments magnifiques où vous imaginez, parce qu'il s'imagine en train de donner une interview sur son roman sérieux et il dit des choses. Comme à Claire Chazal, par exemple, il lui dit « Vous savez, Claire, je crois que l'écriture se joue en dehors d'elle-même. » Et elle le regarde avec un sourire qui veut dire « Oui, bien entendu, nous sommes d'accord. » Et ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire. Même moi, je n'ai pas compris cette phrase. Elle me parlait, mais...
Mais c'est évident de construire une phrase qui ne veut rien dire, mais qui sonne comme un truc vrai.
Ouais, ce n'est pas évident. J'aurais pu essayer d'écouter des émissions pour en attraper une comme ça. Non, elle m'est venue comme ça, je ne la comprenais pas. Et je me suis dit, super, je ne la comprends pas, c'est parfait.
Il y a celle-là aussi. Donc, c'est toujours Claire Chazal qui pose les questions. Alan Quartero, pensez-vous qu'on guérisse un jour de son enfance ? Il répond, vous savez Claire, dans la jungle de Calais, j'ai connu un homme qui avait tout perdu. Sa femme, ses enfants et un groupe de Kurdes avaient brûlé la tente qui constituait son unique lieu de vie, son seul bien. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu quand je lui ai demandé si ça allait ? Il m'a regardé, a affiché un sourire plein d'espoir et a déclaré de sa voix douce et posée « Everything will be fine », serrant contre lui une peluche que je devinais avoir appartenu à son fils disparu. Et voyez-vous, Claire, jamais une phrase ne m'a autant bouleversé. Vous attaquez un peu aux postures quand même.
Oh, je sais pas si je m'attaque, mais c'est le fantasme du gars qui veut écrire un roman sérieux. Et puis derrière, il y a tout ce qui va avec, toute cette imagerie,
c'est le statut, quoi,
espèce de héros comme ça qui qui a une autre vie héroïque. Alors son roman est sérieux, mais il a une vie héroïque à côté, quoi. C'est quelqu'un qui est impliqué socialement, qui fait des choses un petit peu dans l'humanitaire. Non. Il a ce fantasme-là aussi. Oui.
Et alors on l'a dit, mais tout est prétexte à un roman sérieux. Et dans la piscine dont il s'occupe quand même un peu, même si elle devient verte malgré ses efforts, il y a un moment où il croise la route d'un... Alors je l'ai noté, parce que c'est d'un autonecte.
Un autonecte, oui.
Alors c'est ces petites bêtes qui...
Ouais, des espèces d'insectes
qui surfent sur les
pattes.
Piscines.
Alors, elles ont pas deux... Moi je croyais qu'elles avaient que deux pattes, en fait c'est un insecte. Donc elle a six pattes, mais elle a deux grandes pattes et elle nage comme ça. C'est des trucs qu'on retrouve dans les piscines quand ça manque de chlore. Mm. Donc très vite, il y a une apparition de Notonecte dans la piscine.
Et alors tout de suite, lui, il imagine plutôt un roman sur le rapport homme-animal et la rencontre d'un écrivain avec une Notonecte, un Notonecte.
Je sais plus. Je crois que c'est une. Ouais.
Mais c'est ça, tout est prétexte à l'écriture d'un roman sérieux.
Le moindre, il cherche des pistes, donc tout est prétexte. Donc là, il imagine une espèce de relation un petit peu à la Belle et Sébastien ou le Grand Bleu. On se prend d'amitié avec un dauphin, lui, ce serait une autonecte. Ouais.
Et alors, il a aussi des problèmes de personnel, y compris de santé. Il a un problème ORL, problème aux oreilles. Et en plus de ça, il a un habitus clivé. Qu'est-ce que c'est un habitus clivé ?
Alors, un habitus clivé, moi, je ne connaissais pas. C'est ma fille qui m'a parlé de ça, qui avait lu Bourdieu et qui m'avait dit « Ah, mais toi, en fait, tu as un habitus clivé. » Je dis « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle me dit « Voilà, c'est quand tu as une origine sociale. » Enfin, je vais mal le retranscrire, elle va m'en vouloir. Et Bourdieu aussi. Enfin,
on est tiraillé entre son origine sociale et le milieu qu'on essaye d'intégrer dans sa vie professionnelle.
Un tiraillement entre les origines. Et du coup, on est toujours entre deux univers et on n'est jamais soi, mais on est un petit peu soi, mais jamais vraiment. Et ça crée des névroses supplémentaires, en fait. Oui.
Mais donc, c'est encore vous, l'histoire de l'habitus clivé. Vous, en fait, dans les romans.
Alors, pas tout, j'espère, mais il y a beaucoup de moi. Cette histoire d'habitus clivé, ouais, mais je crois que c'est un truc qui m'habitera toute ma vie, parce que moi, je viens d'un milieu assez populaire. La vie a fait que j'ai fréquenté d'autres milieux, mais malgré tout, je reste ce provincial très populaire. Donc l'habitus clivé, non, c'est vraiment mon truc. Ah oui.
Samouraï, c'est le nouveau roman de Fabrice Caro chez Gallimard, collection Signe. On revient dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Caro.
La voix est livre continue toujours avec Fabrice Caro qui publie Samouraï chez Gallimard, collection Signe, collection très élégante avec les jolies couvertures. C'est donc l'histoire d'Alan, qui est romancier. Sa copine l'a quitté pour un spécialiste de Ronsard et elle lui a dit d'écrire plutôt des romans sérieux. Donc il essaye d'écrire des romans sérieux, mais il n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, il change d'idée en fait. Et donc au début, il veut écrire un roman sur ses racines espagnoles et tout ça. Et puis après, il change d'idée. Puis il croise un insecte dans la piscine, ça lui donne l'idée d'un autre roman. Et puis tout à coup, il s'intéresse à un fait divers local et il se dit, je vais écrire de la narrative non-fiction. C'est-à-dire une sorte d'enquête de journaliste écrivain. Ça vous plairait, ça ?
Oh, je ne saurais pas faire. D'ailleurs, pareil, je me suis mis à la place du personnage et je crois que je ferais comme lui. C'est-à-dire, l'idée m'exciterait, mais au moment de... Il faut aller vers les gens, il faut aller toquer aux portes. Et je crois que je ferais pareil que mon personnage. C'est-à-dire que je m'arrêterais derrière la porte et l'enquête n'irait pas très très loin, en fait. Je crois que mon livre ferait 3 pages. Il faut avoir ce... Il ne faut pas être qu'écrivain, pour le coup. Il faut avoir ce goût de l'enquête, ce truc de détective, un petit peu. Ouais.
Alors, à sa différence, vous publiez régulièrement. Donc, je n'ai pas l'impression que vous soyez en panne sèche d'idées de romans. Mais est-ce que vous faites comme lui ? Est-ce que vous avez des idées qu'en fait, vous commencez puis vous arrêtez ? Ou au contraire, pour publier comme ça, il faut à un moment se dire... Tant pis, j'y vais. Puis le prochain, ça sera la. On verra ce que je ferai. Mais
ouais, c'est plutôt...
vous arrivez à vous décider, quoi.
Ouais, c'est plutôt ça. Je pars souvent de trucs, de thèmes très 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 minces en fait. C'est toujours. J'ai souvent l'habitude. Alors c'est pas très vendeur d'un point de vue marketing, mais souvent je dis que mes romans ils parlent de pas grand chose. Mais c'est à dire que je pars d'un point de départ qui est pas très épais. Et là-dessus, je suis très poreux à tout ce qui m'arrive. Donc j'intègre beaucoup de choses qui m'arrivent, de choses qui passent. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu cette espèce de panne de la page blanche, je touche du bois, parce que j'attends pas d'avoir le grand sujet pour me lancer. Je me lance... Alors des fois, ça donne ce que ça donne, mais je me lance quoi qu'il arrive, par goût de l'écriture. Et arrive ce qu'il arrive. Ouais.
Et vous avez déjà eu des regrets ?
Des regrets sur les choses que j'ai écrites ?
Ouais.
Vous
pouvez les classer ou c'est comme les enfants, on ne peut pas choisir quoi.
Je crois pas, parce que je ne me retourne jamais trop sur ce que j'écris. Je produis tellement, je suis toujours sur le projet à venir, donc je vais toujours de l'avant et je relis même jamais mes romans. Je me retourne assez rarement, du coup j'ai pas c'est une bonne méthode pour ne pas avoir de regrets en fait, de ne pas trop se retourner.
Alors vous dites que c'est des romans sur pas grand chose, mais en fait c'est des romans sur tout, c'est-à-dire qu'à chaque situation... correspond une observation et notamment des relations de couple et amicales et même mixer les deux en même temps parce que donc notre héros et se retrouve célibataire, sa copine l'a quitté et donc ses copains, le premier réflexe, c'est d'essayer de lui trouver une nouvelle copine, sauf que lui, il n'en veut pas particulièrement, quoi. Et c'est vrai que c'est étonnant, ce réflexe.
Ouais, c'est la mission de l'été pour ses amis. Ils disent, ben non, il est tout seul, il ne faut pas qu'il reste tout seul. Donc leur mission, c'est d'essayer de le caser. Voilà. Donc ils organisent des rencontres qui ne marchent pas forcément, mais lui, il n'a pas forcément envie de ça. Mais ouais, je crois que c'est plus difficile pour ses amis que pour lui, en fait.
Oui, c'est ça.
Lui, il le vit assez bien, mais c'est assez insupportable pour ses amis de le voir tout seul, comme ça, un petit peu déprimé.
Mais au point que vous avez chapitré le livre en fonction des copines qui lui sont présentées. Donc, il y a le chapitre Mylène, Chloé, je ne sais plus.
J'ai oublié le prénom aussi.
c'est étonnant de l'avoir structuré comme ça.
Et ouais, ça s'est venu après, parce qu'il m'est apparu, même si c'est assez imbriqué, s'il revoit des... Il y a des filles qu'il revoit, donc ce n'est pas linéaire, les rencontres sont assez imbriquées. Ça m'est apparu qu'il y avait quand même trois gros blocs de rencontres comme ça. Donc, j'ai séparé par rencontre, oui.
Alors, évidemment, on ne racontera pas la fin, mais plus on avance dans le roman, plus ça devient complètement dingue, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs de fou. Est-ce qu'il y a vous avez des limites ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu mettre et vous vous êtes dit, non, là, je vais trop loin ?
Alors, sans rentrer dans les détails pour ne pas trop spoiler, je me suis posé la question, justement, parce qu'autant en BD, je peux aller très, très loin, autant en roman, je reste assez classique sur juste bon, l'écriture. Et puis, encore une fois, il ne se passe pas grand-chose. Et là, il se passe un petit peu plus de choses.
Ah ouais.
Et du coup, comme je n'ai pas l'habitude, je me suis posé la question. Je me dis, oh là là, mais est-ce que vraiment il peut se passer ça ? Est-ce que moi, je peux écrire ça ?
Ah, c'est peut-être pour ça que je vous pose la question. C'est peut-être la différence, effectivement, avec les deux romans précédents.
Ouais, je crois aussi.
Là, il y a un pavé dans la mare.
Ouais, c'est un truc. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais non, ça, c'est pas un truc que je fais d'habitude. Est-ce que je le fais ou pas ? Et je me suis dit, bah non, l'intérêt, justement, de faire des nouveaux romans et d'avancer, c'est de chaque fois d'ajouter un petit truc, quoi. Et c'est vrai que là, je suis allé un petit peu plus loin. C'est pas non plus un truc de malade, mais
quand je dis pavé dans la mare, c'est littéralement.
Voilà.
Il nous reste quelques minutes pour cette séquence qui d'habitude est consacrée aux coulisses de l'écriture, mais bon, j'avais trop de questions sur le roman. Mais enfin, quand même, où est-ce que vous écrivez ? Donc, vous nous avez dit sur votre bureau, mais est-ce que vous avez des horaires particuliers, une discipline particulière ?
Ouais, mais moi j'ai conservé des horaires assez scolaires en fait. Alors soit j'ai gardé ça de mes années de fac ou de lycée, ou de l'époque où j'amenais mes filles à l'école puis je me mettais à travailler, mais j'ai conservé un rituel assez scolaire. Enfin, en gros, je fais 8h midi, 14h, 17h. Mmh. Voilà, donc dit comme ça, c'est pas très sexy, c'est pas très rock'n'roll.
C'est presque décevant de ma part, en fait.
Moi qui, ado, avais ce fantasme de l'écrivain qui travaille la nuit avec sa machine à écrire, la bouteille de whisky, qui travaille j'arrive pas. Après 17h, je suis fatigué, le vieux. Non, j'ai vraiment des horaires très, très, très cadrés d'employés de bureau, presque. Oui.
Est-ce que vous avez un jour dévolu au roman, un autre à la BD, ou est-ce que vous pouvez mélanger un peu les deux ?
Non, je mélange un petit peu tout. D'ailleurs, je pousse toujours 3-4 projets en parallèle, de front, pour être toujours excité. Si un projet ne m'inspire pas, ben je passe à autre chose. Dans la journée, je peux sauter d'un projet à l'autre de manière à toujours écrire.
Et donc, vous répondez à ma question suivante, c'est que vous n'avez pas le syndrome de la page blanche, jamais, quoi.
Pas tellement. Ben, c'est ça. Le fait d'avoir plusieurs projets en parallèle, si on bloque sur un truc, on saute à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que j'arrive pas à rester inactif. Dès que je vois que je bloque sur un truc, je sais que voilà, il y a des jours, on est plutôt dans un certain état d'esprit, plutôt roman, plutôt BD.
Et qu'est-ce qui vous fait décider pour une idée que ça va être un roman plus qu'une bande dessinée ?
Les BD, ça part souvent d'un concept, en fait. J'ai envie de faire, détourner un roman photo, détourner un catalogue, un faux carnet de voyage. Ça part plus d'un concept, alors que le roman, encore une fois, il n'y a pas vraiment de thème, il n'y a pas vraiment de concept, c'est plus une envie d'écrire. D'un coup, je me dis, j'ai envie de roman, quoi. J'ai envie d'écrire, de mots. Le point de départ n'est pas tout à fait pareil. Et même l'approche, l'écriture est assez différente. Dans le roman, je m'autorise à être plus sentimental, peut-être. Il y a de l'humour un petit peu, j'espère, mais ça reste un petit peu... Il y a aussi un petit côté plus sérieux et plus sentimental que dans la BD.
Il y a le roman, il y a la bande dessinée, mais maintenant, en plus, vous êtes adapté à Tire Larigot au cinéma. Il y a eu le discours, il y a eu Zaï, 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 Zaï. Je ne savais même pas qu'on pouvait l'adapter.
Moi non plus, moi aussi.
Vous participez à ces projets-là ou vous laissez faire ? Et qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là quand vous les découvrez ?
Non, en général, je lâche le bébé. Chaque fois, les réalisateurs me disent, ils me demandent si je ne veux pas participer un petit peu à la coécriture. Moi, j'aime bien lâcher le truc et dire non, fais ce que tu veux. L'intérêt, c'est que tu te réappropries le truc. Quoi. Mmh. Et bah, dans tous les cas, j'ai été... Alors, chaque fois, j'ai la même réaction. Je me dis, mais c'est pas adaptable. Que ce soit Zay Zay ou le discours, dans les deux cas, j'ai eu le même mouvement de recul. Le mot est fort, mais le fait de me dire, mais ça peut pas s'adapter, ce truc-là. Donc, non, j'aime bien lâcher le bébé. Amuse-toi avec ça. Et après, je découvre le produit fini. En général, je suis pas déçu. Je vois ça en gamin, quoi, en spectateur.
Mais vous reconnaissez votre bébé maquillé ou...
Ouais, oui, heureusement que je reconnais.
Ou c'est autre chose, quoi.
C'est autre chose. Moi, comme je leur dis, moi, j'ai écrit le livre. Moi, mon truc à moi, c'est le livre. Après, ça deviendra forcément autre chose. Mais j'aime bien l'idée que ça devienne autre chose aussi.
Ouais, Samouraï, alors là, par contre, ce serait vachement adaptable. Donc peut-être on verra Samouraï bientôt sur grand écran. Non, c'est déjà prévu ou pas ?
Non, pas encore. C'est un petit peu tôt. Non.
C'est chez Gallimard pour l'instant. On se retrouve dans un instant pour visiter la bibliothèque de Bartabas. La classe.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Fabrice Carreau pour son roman Samouraï. Il est l'heure de visiter une bibliothèque. Et laquelle ? Bartabas, vous savez, l'écuyer, metteur en scène, le théâtre équestre, Zingaro, tout ça. Nous sommes allés le voir dans sa caravane du côté du fort d'Aubervilliers. Il vient de publier les magnifiques Cantiques du Corbeau. C'est chez Gallimard, une sorte d'épopée poétique en 22 chants très courts, mais qui rassemble tous la création. C'était l'occasion. On n'a pas été déçus. Bonjour Bartabas.
Bonjour. Ça vous fait rire déjà.
Bah oui, parce qu'avant d'allumer les micros, vous m'avez dit pourquoi vous venez m'emmerder ici. Il n'y a pas de bouquin, mais on n'est pas chez.
Au contraire, il y a beaucoup de bouquins.
En fait, bah voilà. On est venu à Aubervilliers, donc on est à Zingaro. Et je me suis dit, quand Agnès Vaudin m'a dit c'est à Zingaro, je me suis dit, mais non, l'idée c'est qu'on aille chez lui pour voir ses bouquins. Mais en fait, j'avais oublié que chez vous, bah, c'est ici, c'est à Zingaro.
Bah oui, parce que c'est quand même la particularité de la compagnie. Hein, c'est que c'est une compagnie mi-hommes, mi-chevaux. Et tous vivent ensemble sur le même lieu, donc dans cette espèce de village d'Astérix, là, au milieu du 9-3. Voilà. Et surtout que maintenant, on ne tourne plus, donc on s'est vraiment sédentarisé ici. On est des travelers sédentarisés maintenant.
Sédentarisés, mais vous n'avez pas un appart à côté.
Ah non, j'habite toujours dans ma caravane.
Voilà, c'est ça ce qui est chouette. Mais donc, où est-ce qu'ils sont les bouquins ?
Et c'est vrai que le rapport au livre a changé parce que pendant 40 ans, on était sur les routes dans le monde entier, un peu partout, donc tout le temps en voyage en fait. Et donc, par le principe d'une caravane, c'est que tu ne peux pas trop accumuler d'objets. Hein, donc, que ce soit des œuvres d'art, entre guillemets, ou des livres, on a peu de place. Donc, à chaque fois, il fallait choisir. On part avec des livres et quand on revient de tourner, ben, hop, on les accumule quelque part. Et donc, il y a toujours les livres que j'ai avec moi dans ma caravane. Et puis, il y a les lieux où j'écris, où je travaille, maintenant qui est fixe, où tous les livres s'entreposent. Et puis, il y a d'autres lieux aussi qui sont pour les... Allons-y.
Mais alors, les livres, entre deux tournées, ils sont laissés sur place ? Il faut s'en débarrasser au fur et à mesure ?
Eh bien, ils sont entreposés dans ce que j'appelle mon antre, qu'on va visiter tout à l'heure, qui est un espèce de bureau où tout s'accumule.
Donc là, on est au milieu, on est entre les écuries, il y a le grand restaurant, une sorte de cathédrale de... Argentine, enfin je sais pas, il y a plein de...
Une cathédrale de bois, oui. C'est
une cathédrale de bois, tout est en bois. Et les écuries sont en bois.
Oui, j'adore le bois.
Des grands bâtiments en bois magnifiques, comme ça, avec des enseignes Zingaro jaunes et vertes. Là, on est dans un grand espace au milieu d'Aubervilliers, en fait. C'est complètement dingue, quoi.
Oui, parce qu'on est arrivé, c'était un terrain vague pourri. Vous voyez, puis petit à petit, on a aménagé, on s'est installé. Ça va faire presque 35 ans maintenant.
Et c'est quoi ça?
On est arrivé pour 6 mois et on est resté 35 ans.
Et là, on arrive devant une...
Donc là, c'est ma caravane de tournée. C'est, ouais, avec c'est la caravane qui voyage. Bon, quand on fait des très grands voyages, quand on allait aux États-Unis, à New York, au Japon, à Tokyo, on ne partait pas en caravane, évidemment. On partait tous en avion, les chevaux. Mais en général, tout ce qui est en Europe, c'était toujours par la route. Donc il y a cette vieille caravane, cette Assomption des années 50.
Ouais, voilà, ça fait très années 50.
Au milieu des corbeaux. Oui,
elle est verte et jaune et rouge, oblongue comme ça, avec des...
Vert
des
et rouge, c'est les couleurs de
arrondis,
Zingaro. Oui.
Magnifique.
Voilà, donc là, c'est un endroit...
Pile en face de l'écurie.
Comme vous voyez, même si c'est une caravane assez grande, il n'y a pas non plus beaucoup de place. Hein, chaque espace est calculé. Donc là, par exemple, vous voyez, là, c'est des lits. Ici, c'est plus un endroit pour travailler. C'est-à-dire que moi, je suis un peu monomaniaque. J'ai un rapport à la lecture qui est assez particulier. Parce qu'il est, je me plonge à chaque fois que je prépare un projet. Donc là, par exemple, je travaille sur les travelers irlandais. Donc je lis beaucoup de choses autour de l'Irlande. Alors ça va de livres, ça peut être des analyses, des enfin voilà, il y a un peu de, il y a un peu de tout, vous voyez, avec Joyce.
Donc là, on est au fond de la caravane avec une sorte de coin avec des canapés en cuir rouge.
C'est le salon, salle à manger, si vous voulez, de la caravane. Mais là, il me sert à travailler.
Et alors, vous avez un Tarzan, mais c'est pas Edgar Rice Burroughs, c'est Johnny Weissmuller.
L'auteur. C'est un carnet de notes. C'est un carnet de notes.
D'accord. Je me disais, c'est bizarre. Je savais pas qu'il avait écrit son propre Tarzan, parce que Johnny Weissmuller, c'est l'acteur, quoi.
Non, j'ai beaucoup de carnets partout, donc oui, j'en ai partout.
Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Bon, ben là, on a, mais c'est pas les, là, c'est des, j'allais dire presque des bouquins de travail, hein, Joyce,
Let's, donc Irlande,
les grands classiques, et même, vous voyez, Tocqueville, Voyage en Angleterre, puis des livres plus techniques sur les voyages au pays des travelers, voilà. Et puis là, ça, c'est des bouquins que je viens de finir de lire, Vivre avec nos morts de Delphine Orvillère, que j'ai adoré. Bella Chagall, ça, c'est les restes du spectacle précédent. Enfin, voilà, c'est ma manière de travailler. J'enquête d'abord pendant plusieurs mois, où je me nourris de beaucoup de lectures, beaucoup de musique, évidemment, aussi, de peinture. Et puis après, j'oublie tout. Et puis après, on travaille avec le matériel humain et animal de la compagnie, et des tableaux ressortent en fonction de ce qu'on a emmagasiné. C'est une notion très importante pour moi dans l'approche d'une culture. C'est jamais une approche qui est faite par un véritable voyage physique. C'est-à-dire que quand je prépare des spectacles sur des pays très lointains, souvent qui s'appuient sur des cultures très lointaines, j'y vais, mais pour rencontrer des musiciens, puisque une des caractéristiques de Tazingaro, c'est qu'il accueille, à part des cavaliers et chevaux, il accueille aussi des musiciens qui partagent notre vie pendant 2-3 ans. Enfin, à l'époque, on tournait pendant 3 ans chaque spectacle. Donc, par exemple, des musiciens du fin fond du Rajasthan, des Langas et des Manganiars. J'avais été au fin fond du désert pour les auditionner, quoi. Et mais c'est juste pour rencontrer des hommes, pour rencontrer des gens, les voir dans les yeux, leur parler. J'étais par exemple au Nurana Pradesh, au monastère de Guto, pour rencontrer les moines du monastère pour parler du spectacle, pour les convaincre de venir, quoi. Mais c'est pas un voyage qui sert à emmagasiner des impressions, parce que d'abord j'ai pas le temps, c'est pas en une semaine que tu vas vraiment, tu vois juste un rythme, un peu une respiration. C'est plus par la lecture, par l'observation de les rencontres aussi. À Paris, je rencontre des gens qui vont me parler de l'Irlande, par exemple, qui vont me parler de leur Irlande ou de leur. Et j'aime bien toujours ce deuxième regard, c'est aussi par la lecture. Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas l'air comme ça, mais assez timide. Et j'ai toujours dit que la lecture, pour moi, me sert à apprendre sans avoir à demander, quoi.
Puis ça fait un paravent avec les autres aussi, c'est pratique, on peut se cacher.
Aussi.
Ah, c'est des thèses.
C'est des thèses, en fait. C'est très intéressant, les thèses, parce que bon, c'est un peu ardu à lire. Mais par contre, c'est bourré de références. Et donc, ça te guide. Grâce aux thèses, tu peux aller vers tel auteur ou telle lecture parce qu'elle est indiquée. Et donc, ça, c'est ce qui te guide, quoi.
Mais où est-ce que vous les trouvez ? Parce que donc, c'est des feuilles à quatre.
Oui, vous les trouvez sur Internet. L'identité de la musique irlandaise, voilà.
Ah, mais c'est dingue. Eric Falk. Estelle Chalon, qui devait être donc étudiante à l'UFR d'Aix-Marseille, ne sait pas que Bartabas est en train de lire sa thèse « The Turn of the World, exactement. Discours et performances chez les Irish Travelers, anthropologie sociale, spécialité recherche voilà. ». C'est chouette quand même.
Il faut s'accrocher hein, quand même, parce qu'il y a, je ne sais pas combien, il y a plus de 200 pages.
Puis on ne s'embarrasse pas du style en général dans les thèses.
Non, mais c'est intéressant parce que ça te. Oui, moi, je m'en sers beaucoup pour me guider dans les. Comme il y a beaucoup. Le principe des thèses, c'est qu'il y a beaucoup de références, quoi. Et donc, ça me sert à me guider pour des références sur un auteur, sur tel. Sur un poème, ou sur. Voilà, hop, et ça me permet d'aller les chercher aussi à partir de ça. Donc, c'est un outil que je fais depuis assez peu. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette manière de travailler qui est assez intéressante aussi, quoi. Bah, et sinon, c'est des lectures un peu au hasard. Voilà, au hasard de. Je pioche dans tous les auteurs irlandais. Voilà, je me suis tapé tout Ulysse quand même. J'ai du courage. Et
ah, vous avez fini Ulysse ?
Oui, enfin, je dois reconnaître qu'au milieu, j'ai quand même. Pour arriver enfin à ce dernier chapitre magnifique. Mais bon.
Mais vous savez que c'est rare parce que je trouve Ulysse dans la plupart des bibliothèques, mais à chaque fois on me dit j'ai commencé, j'ai pas fini.
Moi j'ai été jusqu'au bout, mais j'ai quand même au milieu.
C'est James Joyce, Ulysse, donc c'est du flux de conscience. Donc on est dans la tête d'un type et puis les pensées vadrouillent, il y a des collisions. C'est un peu compliqué à lire, mais
par exemple, c'est une expérience. Voilà, je ne sais pas si ça va me servir par exemple. Concrètement pour le spectacle. Mais voilà, c'est emmagasiné. Peut-être un jour, en faisant un tableau, ma manière de travailler est assez particulière. Hein. Parce qu'après, encore une fois, j'oublie tout. De mes recherches, je cherche à oublier tout. J'ai pris des notes comme ça, mais voilà, je ne cherche pas. Et ensuite, je travaille. Le vrai travail commence pendant 3 ou 4 mois avec, avec les chevaux, le matériel humain et animal de la compagnie. Et là, on regarde, on travaille sur des idées de tableaux. Voilà, par exemple, si on veut travailler sur la famine en Irlande. Et le fait d'avoir fait toutes ces rencontres littéraires va me nourrir inconsciemment, en fait, je pense. C'est-à-dire que c'est pas va venir l'idée d'un tableau. Souvent, les gens disent, mais où tu as eu cette idée-là? Même moi, je ne serais pas capable de le dire, mais ça peut être une lecture ou un poème. Et puis tout d'un coup, ça génère une image, quoi. Et surtout en fonction des chevaux aussi et des gens, parce que c'est vraiment mon point de départ, quoi. C'est-à-dire que je ne pars pas d'une feuille. Quand je fais mes spectacles, je ne pars pas d'une feuille blanche. Je dis, voilà, je vais engager ou trouver un cheval pour faire ça ou une personne pour faire ça. Ils font partie de la compagnie, ils sont là. Et avec eux, on crée quoi.
Et alors, je vois pas d'ordinateur, vous écrivez à la main?
À la main, tout à la main. Et
je vois un carnet, les cantiques du corbeau.
Oui, bon, ça c'est spécial, c'est des carnets que je fais après avoir écrit. Là, je continue à prendre des notes sur ce que j'ai écrit.
Je pensais que j'allais ouvrir et trouver carrément le bouquin
manuscrit. Ah bah non, mais je l'ai, ça, j'ai tout. Mais ça, c'est dans mon. On va passer au vrai endroit, à ma vraie bibliothèque.
Allons-y, tiens.
Là, c'est. Donc là, voilà. Donc là, vous allez rentrer dans un endroit qui est. Peu de gens peuvent rentrer.
Waouh, merci.
Parce que c'est un endroit un peu secret. Que, autant la caravane, c'est là que je reçois des gens. Mais c'est là, pas... c'est un endroit qui est très, très secret. Et puis, je vous laisse le décrire, vous allez voir.
Et il n'y a même pas de roue, en fait. C'est carrément dans le sol. Voilà. C'est sédentaire.
Donc, déjà, oui, il y a une première étape. Où, oui, il y a d'ailleurs quelques bouquins. Mais bon, c'est plus.
Donc, on est rentré dans une sorte de bureau en bois. Et il y a un vélo. Et puis des bouquins derrière, une bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a là dans cette bibliothèque?
Oh, ça c'est des bouquins pas très que j'ai un peu sortis parce que voilà.
Il y a des vieilles vrai, bobines aussi.
Ah ouais, pièce elle est là.
Ah ouais. Ah ça sent la maison de campagne là. Ça sent le feu de cheminée. Donc alors, là ça, c'est votre bureau?
Ah ce que j'appelle mon bureau, c'est là que j'écris. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui aiment bien écrire devant un mur vide. Surtout moi c'est le contraire. Je suis entouré. J'aime bien la présence de tous ces livres, de tous ces souvenirs. Souvent c'est les pièces de mes anciennes caravanes, même que j'ai démontées. Ça c'est un mur de mon ancienne caravane. Des livres que j'ai découpé quand j'ai dû jeter la caravane parce qu'elle était trop pourrie. Et donc j'ai découpé le mur pour moi et j'ai dormi là.
Avec une tapisserie de photos dessus quoi.
Voilà.
Et puis en face de votre bureau il y a plein de photos aussi. Voilà, il y a Einstein.
Il y a
des tableaux,
il y a John Ford, il y a Guilef, il y a Orson Welles. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler ma bibliothèque. Mais moi, j'ai un rapport au livre qui est assez particulier parce qu'il est assez, j'allais dire presque brutal et passionnel. C'est-à-dire que je peux dévorer un livre pendant la nuit ou au contraire, il y en a que je n'ouvrirai jamais, mais j'aime bien qu'il soit là.
Par exemple.
Ils sont là et je pourrais penser parce que vous voyez, il y a tellement. Et par contre, quand je lis. J'ai un rapport, oui, par exemple, j'en prends un au pif, là, Christian Bobin, La Plus Que Vie, et je les écorne, moi. C'est-à-dire que j'hésite pas à les abîmer, je note les pages,
c'est...
je replie.
D'accord, ouais, c'est je pas un marque-page, c'est pour vous rappeler que là, il y a un truc important.
Oui, c'est je vais prendre mes lunettes, parce que là, quand même à mon âge maintenant. Hein.
Il y a deux vieux fauteuils qui doivent être assez agréables pour lire, d'ailleurs, parce qu'ils sont ni trop durs, ni trop mous.
Mais vous voyez, mon rapport au livre, il est assez sale, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas peur des j'écorne dessus. J'ai fait beaucoup de notes, beaucoup. Et j'essaie de trouver toujours la phrase, je veux dire, qui résume le livre. Alors, par exemple, moi, je suis un fan de Christian Bobin, entre autres. Hein. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai noté ça au pif, et qui, pour moi, représente tout le livre, quoi. Je regarde souvent ces livres, puis je reviens à la fenêtre, si éclairant soient les grands textes, il donne moins de lumière que les premiers flocons de neige. Et pour moi, ça résume tout ce livre. Pour que Christian Bobin écrive ça, c'est un livre sur la disparition de son amour. Et c'est un moment où il était. Et ça, voilà. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est-à-dire, et quand je retrouve ces livres, par exemple, je n'avais pas ouvert depuis très, très longtemps, je vais directement hop, à cette phrase qui, pour moi, résume le livre quelque part. Et ensuite, après, il y en a plein d'autres. Hein,
vous avez du Lautréamont en plusieurs.
Alors, beaucoup de poésie,
aussi.
Beaucoup de poésie. Parce que,
mais c'est de la poésie noire, Lautréamont.
Oui, parce que pour une raison assez simple aussi, c'est que moi, je me lève très tôt le matin. Je suis un peu insomniaque, je me lève très tôt le matin. Et le soir, je m'endors donc assez facilement. Et la poésie, c'est bien, parce que tu lis un petit quatrain de François Cheng et hop, tu t'endors dessus. Quoi.
Nom de Dieu.
Voilà.
Vous avez Lautréamont, mais en japonais.
Oui.
Vous lisez le japonais?
Non, je ne lis pas le japonais, mais j'ai pris plein de notes parce que j'ai fait un spectacle sur les textes de Lautréamont et donc je l'ai joué dans le monde entier. Donc j'ai fait des versions en anglais, en japonais, en espagnol, quand j'allais jouer au Japon, au Chili. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a dû retraduire les textes. Donc...
Mais il y a plein de marque-pages, c'est-à-dire qu'il y a, c'est le traducteur qui vous a mis c'est là.
Voilà, exactement. Il y a eu, enfin, il y a eu un travail. Donc, je les garde, voilà, par exemple. C'est toujours dans un rapport. Il y a une histoire qui correspond à tous ces livres. Alors, ça peut être des livres d'amis, des livres qu'on m'a donnés, des livres que je n'ouvrirai jamais, peut-être. Et puis, un jour, tout d'un coup, je vais les... j'aime bien ce rapport-là à la lecture, qu'il n'est pas absolu. C'est-à-dire qu'il est, il est assez, il est violent d'ailleurs quelque part, hein, parce que voilà, on peut mettre un livre là comme on l'abandonnerait et jamais l'ouvrir. Et puis un jour, par hasard, on ne sait pas pourquoi, on va l'ouvrir et comme par hasard, on sera prêt à le recevoir et on sera prêt à le comprendre vraiment, quoi.
Il y a de la violence aussi dans le destin d'Isidore Ducasse, alias le comte de Lautréamont, qui est mort à 24 ans. En fait, Les Champs de Balles d'Aurore, c'est quasiment
son, un livre.
Sa seule œuvre. Ça vous intéresse aussi, ça vous a...
Bah, moi, j'aime bien les gens un peu à part. C'est sûr que c'est pas des... C'est... Mais bon, voilà, c'est pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des météorites, ces trucs-là. C'est des machins qui répondent à aucun critère. Il n'y a que comme ça que tu peux vraiment créer quelque chose d'intéressant. À mon petit niveau, moi, je peux dire, on dit souvent ça. Théâtre Zingaro, j'ai un peu créé une forme de spectacle qui n'existait pas vraiment, quoi. Qui est une espèce de melting pot de un peu de cirque, un peu de théâtre, un peu de concert, de musique. Enfin, voilà. Mais j'aime ce côté un peu... tu as une destinée, tu fais ton truc, tu ne t'occupes pas de quelle échappelle tu es. Ni de... Pour ça, il faut beaucoup de force, quoi. Et puis, il faut beaucoup de... Il ne faut pas penser à ce qu'on va dire, quoi, à ce que vont dire les autres. Il faut créer parce que tu l'as en toi et que tu as besoin de le sortir et c'est tout.
Et vous cornez les pages des livres, mais pas ceux de votre grand-père,
non,
quand même.
Non.
Parce que là, il y a toute une collection, ouais. 19e, ouais. Années 30, très jolie.
Ouais, tu les comptes.
Bon, vous les lisez ou c'est juste des objets qui vous rappellent votre grand-père?
D'abord,
ou...
je les ai récupérés pour ça, parce que c'est des objets que je ne voulais pas quand ma mère est décédée. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai récupéré, c'est ça, c'est les livres de mon grand-père. Et petit à petit, j'en ouvre. Bon, on est dans les classiques.
Ouais, il y a les Essais de Montaigne, il y a Molière.
Molière, Dante, enfin bon, voilà, etc. Don Quichotte, évidemment.
Alors, vous n'avez jamais fait un spectacle sur Dante ?
Non, mais souvent on me le dit.
L'enfer de Dante, ouais. Ah, c'est drôle.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté. D'ailleurs.
Il y a un voyage, quoi.
Quand on a fait une lecture des Cantiques du Corbeau, là, parce que j'ai fait une lecture dans mon théâtre dans le cadre du Printemps de la Poésie, et un des comédiens m'a dit, mais c'est drôle, en lisant ce texte,
c'est vrai.
On pense à Dante un peu. Et un peu.
Ah ben donc ça vous travaille un peu, ou vous avez déjà écarté l'idée ?
Non, ça me travaille, pas plus que ça. Tout me travaille, rien me travaille, il ne faut pas en faire. Enfin, tout ça pour dire, voilà. Puis il y a donc Quichotte, très important pour moi, évidemment, que j'ai là, que j'ai en plein de...
Je vais dans Pourquoi plein très de... important, à cause du cheval ou...
Oh, bah, c'est quand même mon livre. Mais j'ai tiré un trait dessus pendant longtemps. Je voulais faire un film sur Don Quichotte.
Ah, mais c'est maudit, ça.
C'est maudit. Pour une raison, j'ai beaucoup réfléchi. Je dis, pourquoi personne n'est arrivé, même Orson Welles s'y est cassé les dents, quelque part. Bien que ce soit mine de rien, même si ça a été remonté après sa vie, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, ce qu'a fait Orson Welles, qu'il a vraiment une analyse de... Quand Sancho Panza arrive à Valence, alors qu'il y a la feria, bon, comme il aimait bien les taureaux, c'est pour lui un prétexte de filmer la corrida, mais il trouve Orson Welles qui est en train de filmer un film sur Don Quichotte. Et il se fait engager dans le film. Et après, il revient. Et ça, voilà, c'est le renvoi dans Don Quichotte quand il va à l'imprimerie, dans la deuxième partie, qu'il voit sa propre vie qui est imprimée, quoi. Donc ça, c'est très malin de la part de... Mais voilà, mais sinon, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire de ce qui fait sa force et sa faiblesse dramatique, d'ailleurs, à Don Quichotte, c'est que c'est l'histoire de deux personnages qui sont chacun dans leur univers. Et d'un bout, ils font des rencontres, ils font des voyages, mais ils n'évoluent pas dans leur rapport, en fait. Ouais. C'est-à-dire que Don Quichotte reste toujours dans sa position et Sancho Panza toujours dans la sienne. Il n'y a pas de changement psychologique entre les deux. Il y a pas de... Et c'est ça qui rend une adaptation, d'ailleurs, très difficile, parce qu'on est plus au niveau d'un road movie, quelque part. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse aussi dans Don Quichotte, parce qu'une des manières de le présenter, c'est la genèse, d'accord, il s'invente même son nom. Comme moi, Bartaba, je me suis inventé mon nom. C'est pour ça que je dis que l'aventure zingaresque est assez Don Quichotesque, ouais. En fait. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui s'invente son nom, qui nomme son cheval, et qui, en fait, pendant tout son histoire, va là où son cheval l'emmène. C'est-à-dire, il ne décide pas d'aller quelque part. Il erre, et c'est son cheval, en fait, qui le dirige. Il dit, bah, tiens, il croise ça, il s'arrête là. Et voilà, et c'est un peu ma vie, quoi, moi, je trouve. C'est-à-dire que moi, je vais là où mes chevaux m'emmènent, hein, quelque part, dans ma recherche, dans mon travail. Donc voilà, il y a ces, ça fait partie des...
Il y avait eu Jean Rochefort et Johnny Depp aussi.
Ah bah oui.
Qui avait été tenté.
Quand même, qui a donné quand même le film le plus génial qui ait jamais été fait sur le cinéma. Quoi.
Qui était un film sur, l'échec du film. En
sur
fait.
L'échec du film. Qui
est, Lost in la Mancha.
Voilà. Et qui est pour moi le plus beau film qu'on ait fait sur le cinéma. Et le début du film, c'est... le metteur en scène
Thierry Gilliam
qui dit je rêvais toute, ça fait 30 ans 40 ans que je rêve de faire ce film, j'ai chaque image dans la tête, etc. Ce qu'il ne faut jamais dire quand tu es réalisateur, parce que ça ne se passe jamais comme tu as prévu. Et, ça, et je trouve ce film extraordinaire.
Il y a eu
quoi.
Des inondations.
C'est-à-dire que c'est une suite de catastrophes d'un bout à l'autre. Quoi. Et c'est là, c'est, je trouve que c'est un des plus beaux films vraiment sur le, ce qu'est le cinéma. Quoi. Ce qu'est l'aventure du cinéma d'un tournage.
Et vous le ferez un jour ?
On ne sait pas, on verra. Mais bon. Je ne sais pas.
Mais vous avez déjà les images d'en tête, c'est ça ? Dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a beaucoup de Bob Dylan aussi.
Bon, pas beaucoup. Il y a,
les chroniques de Bob Dylan, il y a la bio de Bob Dylan.
Oui, ben ça m'a... j'aime beaucoup les... J'aime bien les biographies ou même les gens qui parlent de leur métier. Je trouve que c'est toujours intéressant. Ça, il y a une épaisseur qui m'intéresse parce que c'est des gens qui ont vécu. Et moi, je trouve que là, on revient encore à, par exemple à Cervantes, etc. C'est la vie des auteurs à cette époque-là. Quand tu regardes leur biographie, c'est impressionnant. Ils ont fait, ils étaient marins, ils ont fait la guerre, ils ont fait des affaires et ils ont écrit. Ils ont été en prison et ils ont écrit. C'est pas l'écrivain qui s'est enfermé toute sa vie dans une pièce et qui n'a fait qu'écrire. Quoi. Ils ont vécu, quoi. Et ça, pour moi, c'est une notion assez importante.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de classement particulier.
Aucun. C'est le bordel. Des fois, c'est un peu regroupé.
Vous savez où voilà, les trouver, quoi.
Pascal Kinghard, voilà, pareil, qui a un...
Oui, ouais, vous aimez, d'accord, je commence à cerner vos... D'accord.
Voilà, alors, vous voyez, j'ouvre au hasard, j'ai corné la page, là. Mahomet coupe sa manche pour ne pas éveiller sa chatte. Muezza endormie près de lui sur sa couche. Et ça résume pour moi tout ce livre, L'homme aux trois lettres.
Ah oui, c'est votre obsession de trouver la phrase qui résume.
Pas résume, c'est un bien gros mot aussi, disons que c'est le...
Bien sûr, il y a les métamorphoses de Ovid.
Oui, mais il y a tout. Je ne commenterai pas tout parce que là, il faudrait qu'on ait... Voilà, mais c'est un rapport bordélique, vous voyez. Et puis surtout, c'est un rapport historique. Vous voyez, là, par exemple, on peut dire la même chose qu'il y avait sur le Chandelier de l'horreur, sur Jéricho. Parce que j'ai fait un film, mon premier long métrage appelé Mazépa.
Jéricho, c'est le radeau de la Méduse, notamment.
Oui, c'est surtout le peintre des chevaux. Quoi. Il a 98% de sa peinture, c'est des chevaux et des fous, des visages de fous. Et le radeau de la Méduse, parce qu'il était obsédé par les corps aussi. Mais donc j'ai fait un film sur lui qui s'appelait Mazépa. Et donc voilà, donc il y a eu beaucoup de recherches. Et c'est vieux, hein, là, ça date d'il y a 25 ans. Et ça, c'est des livres qui sont restés là, avec des annotations, avec des. Voilà. Parce que Jéricho, c'est aussi le premier peintre du mouvement pour moi. C'est-à-dire que c'est un peintre qui a peint à travers les chevaux, il a peint la vie. C'est-à-dire il a peint des chevaux dans la vie quotidienne, sur les chemins de halage, des palefreniers qui brossent des chevaux, ce qui ne se faisait pas du tout. On est à l'époque de David, où on peignait en atelier. Hein. Quand on peignait un cheval, c'était un cheval figé dans une position avec un roi dessus. Et lui, il est parti en Angleterre, en France, partout, il se baladait. Il était obsédé par la notion du mouvement avec le cheval.
C'est une gageure terrible de dessiner un cheval. Enfin, de peindre un cheval pour le mouvement,
oui,
pour
enfin
le,
justement,
les muscles,
pour le,
la proportion.
Oui, enfin, oui, bah, c'est-à-dire surtout à cette époque-là où il n'y a pas de photo, quoi. Donc, c'était et puis pour faire rentrer un cheval dans ça se faisait d'ailleurs, hein, faire rentrer un cheval dans un atelier, parce qu'à l'époque on peignait sur modèle, quoi. Mais justement, on avait souvent des chevaux toujours dans les mêmes attitudes. Quand on regarde bien tous les portraits de l'école de David, c'est souvent des chevaux toujours dans la même attitude, voilà, une espèce de piaffé, un peu voilà, toujours figé. Alors que lui, voilà, ce qui l'a intéressé, c'est le fait social. Le cheval était un prétexte de décrire la vie sociale, quoi.
Merci beaucoup, Barthabas.
Merci à vous.
Retour à Europe 1, les Cantiques du Corbeau. Je rappelle, c'est le dernier livre de Barthabas chez Gallimard. Très court et très beau.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Fabrice Carreau, vous êtes toujours avec nous. Alors pas de libraire exceptionnellement cette semaine, je profite du créneau pour vous présenter les 5 romans en lice pour le prix Europe 1 GMF. Attention, roulement de tambour, les voici. On commence par Jeanne Benhameur, que vous connaissez puisqu'elle est venue nous parler de son roman déjà en janvier, La patience des traces, chez Actes Sud, l'histoire de Simon l'Humain, psychanalyste, qui décide de tout quitter un matin où il casse son bol de café. Vous savez, ce bol très spécial qui vous accompagne entre le rêve et l'éveil quand vous avez les yeux dans le vague. Il casse ce bol donc et ça crée justement une rupture chez lui et il part. C'est un roman doux, méditatif et qui nous oblige à ralentir un peu. Ensuite, Le soldat Ulysse, tiens, chez Gallimard. On est en 1919, juste après la guerre, et on retrouve un soldat dans une gare. Il est un peu perdu, complètement même, puisqu'il a perdu la mémoire. Un médecin-chef de la Pitié-Salpêtrière le prend en charge, lui donne un nom, c'est plus pratique. Ce sera donc Ulysse, et il essaye de lui redonner ses souvenirs. Pour ça, il prend une photo de lui et la diffuse dans la presse, les mairies, les postes, en espérant que quelqu'un se manifeste. Ça va fonctionner beaucoup mieux que prévu. Des milliers de gens ont cru reconnaître un frère, un mari, un ami disparu pendant la guerre. Est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils se sont trompés simplement? Est-ce qu'ils voudraient en fait voir dans Ulysse leur proche qui n'est pas revenu de la guerre? Ulysse commence donc une odyssée, et oui, à la recherche de son identité, c'est prenant. Rien à voir, Caroline Serre, elle aussi sélectionnée, publie Les jours suivants. Chez Calman Lévy, on est dans un petit village au milieu de la campagne, sans doute en Corrèze. Il y a pas mal de néo-ruraux, vous savez, ces citadins qui ont décidé de quitter le stress, le bruit, le bureau pour se réfugier à la campagne. Or, dans le roman, un événement bouleverse tout, une panne d'électricité générale, mais à l'échelle de l'Europe. Et dans le village, on est en hiver, ça veut dire qu'il fait très froid, plus de chauffage, l'eau n'est peut-être plus potable et la nuit venue, on commence à prendre peur. Alors les habitants se réunissent dans le café du village pour s'organiser, trouver des solutions et on assiste au pire et au meilleur. Les jours suivants, Caroline Serre. En parlant de catastrophe, voici Basculé de Florian Forestier chez Bellefond. Au début du roman, on est avec Daniel, un homme de 38 ans, haut fonctionnaire qui était parti faire une randonnée dans le massif des Écrins dans les Alpes et qui tombe dans une crevasse. Il a survécu, tout le monde est à sa recherche, mais lui se met à penser. À penser à quoi? À un effondrement probable, au rôle que joue l'administration, les réseaux sociaux et chacun de nous. Florian Forestier est philosophe, Basculé est son premier roman. Et enfin, Douane Buy, chez Grasset, La Tour. La tour en question, c'est une tour du 13e arrondissement de Paris, une tour qui, vous savez, clignote le soir venu avec la vie des habitants qui éteignent ou allument les lumières. Douane Buy zoome sur chaque fenêtre et raconte ses habitants. Ça crée une mosaïque improbable de personnages divers qui n'ont a priori pas grand-chose en commun. De la famille de réfugiés vietnamiens en passant par une pianiste roumaine ou un type qui vient du Mans, Clément, persuadé d'être la réincarnation du chien de Michel Houellebecq. C'est grinçant, mais aussi décalé, parfois drôle, ou en tout cas burlesque. 5 sélectionnés donc pour le prix Europe 1 GMF, prix qui sera remis le 9 juin prochain, mais on en reparlera évidemment. C'est quoi votre rapport aux librairies, aux libraires, Fab Caro? Ils vous ont aidé au début, ils continuent, vous aimez y aller, faire des signatures, des rencontres?
Ah ouais, alors les libraires, pour moi, c'est une deuxième maison presque. Enfin, en tant qu'auteur déjà, moi je les bénis parce que ouais, ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit au début et puis encore maintenant, ils continuent à me soutenir. C'est eux qui ont poussé Zaï-Zaï. Au départ, quand Zaï-Zaï est sorti, c'était pas forcément... ça a démarré peu à peu parce que les libraires, vraiment, ont fait un super boulot. Et puis en tant que lecteur, moi j'adore ça, rentrer dans une librairie, même si j'achète pas forcément, mais je peux rester une heure... Ouais, c'est une espèce de rapport assez physique au livre, à toucher, presque à sentir, un truc un petit peu... Ouais.
Est-ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous continuez à faire la petite visite incognito pour voir si le livre va bien, s'il y a la bonne pile au bon endroit et tout?
Alors ça, je ne le fais plus, mais à mes débuts, je faisais ça, j'allais voir Simon. J'ai même un souvenir un petit peu... honteux, voire pathétique.
Vous avez changé de place.
Ouais, voilà, mon roman, on le voyait pas assez. Enfin, c'était pas un roman, c'était une BD à l'époque. C'était une de mes premières BD. Alors, je regardais autour de moi, et hop, je l'ai mis un petit peu devant. C'est un petit peu honteux d'avouer ça,
mais presque, pas le seul, hein.
Il y a presque pire, c'est vrai.
C'est souvent.
Donc, ça, je le fais plus, parce que justement, les libraires me soutiennent beaucoup. J'ai la chance d'être bien... C'est peut-être les miens, maintenant, qu'on doit déplacer pour mettre derrière les... Mais j'ai fait ça au début, c'est un petit peu la honte. J'aurais pas dû le dire, ce truc-là.
Maintenant, au contraire. Et Héloïse Goua nous a rejoint en parlant d'erreurs de jeunesse. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Quel programme, Héloïse?
Aujourd'hui, je vous parle de discours, Nicolas, des grands discours qui ont marqué l'histoire. Alors, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bon en culture G, Nicolas. Je crois que vous n'êtes pas trop mauvais.
Attends. En tout cas, je vais faire... la poursuite quand vous voulez.
Ah, j'ai peur, je tremble déjà. En tout cas, voilà, je vais faire travailler vos méninges aujourd'hui. Je vous parle d'un album documentaire et historique qui s'intitule « La force des discours ». C'est signé Jean Bulot et Aurélie Luneau. Et les illustrations sont de Vincent Berger. L'album est accessible dès 12 ans. Alors, le livre se penche sur 20 prises de parole. Forcément, on ne pouvait pas toutes les mettre. 20 prises de parole de femmes et d'hommes qui sont inscrites dans la mémoire collective de notre pays et même parfois du monde entier. Alors qu'il concerne les minorités discriminées, la sauvegarde de la planète ou encore la défense de la paix, tous ces discours résonnent encore très fort aujourd'hui, vous allez voir. Et à chaque fois, les auteurs les recontextualisent, ces discours, à travers des infos historiques, un lexique et des petites scénettes qui sont déroulées en forme de bande dessinée. Alors on va voir si vous connaissez vos classiques, Nicolas. Est-ce que vous êtes prêt?
Les mains sur le buzzer.
On commence avec une plutôt facile. Un premier discours, on est le 28 août 1963 à Washington. Et j'ai décidé de ne pas vous traduire ce court extrait.
Martin Luther King.
Écoutez au moins.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Magnifique. Est-ce que vous sauriez me traduire? Non, vous me laissez faire ça au moins?
Ah oui, je vous laisse.
J'ai fait un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et retrouvera le vrai sens de sa foi. Martin Luther King, vous l'avez bien dit, il a prononcé ce fameux discours devant une foule de 250 000 personnes. Certains disent même 300 000 personnes qui étaient venues participer à une marche pour l'emploi et la liberté. Et depuis, vous le savez bien, mais on le rappelle, cette phrase « I have a dream » est devenue un slogan universel qui est aussi porteur d'autres combats. Alors ce qui est très intéressant dans ce livre qui s'adresse aux enfants, mais qui nous rafraîchit la mémoire, ça fait toujours du bien, c'est qu'à chaque fois, les auteurs ont mis en perspective ces discours avec notre époque actuelle. Ici, par exemple, ils nous rappellent que la lutte pour les Afro-Américains est loin d'être finie, puisque près de 60 ans après ces mots de Martin Luther King, le mouvement Black Lives Matter a par exemple été créé récemment pour dénoncer le racisme qui perdure. Et ce mouvement, vous le savez, a pris beaucoup d'ampleur avec la terrible mort de l'Afro-Américain George Floyd. On continue, Nicolas, avec un discours dans un tout autre domaine. Je ne vous donne pas la date cette fois parce que ça risque de trop vous aider et que ça va finir par me mettre en colère si vous devinez tout. Alors écoutez cet homme politique français dont les mots résonnent tout particulièrement aujourd'hui.
À ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur.
Bon, vous
avez c'est Dominique de Villepin, mais vous avez raté le meilleur moment. Je suis issu d'un vieux pays sur un vieux continent.
Oh, en plus, il le connaît par cœur. Alors, est-ce que vous sauriez au moins me dater et me recontextualiser ce discours?
Je dirais 2003, pour la guerre en Irak, enfin contre la guerre en Irak, au Conseil national de sécurité.
Bon, bah, vous savez tout, en fait, je ne sers à rien. On est le 14 février 2003 à New York. Et Dominique de Villepin, qui est alors ministre des Affaires étrangères. Non, j'étais pas né, vous avez raison, puisque je suis né en 2010. Donc, Dominique de Villepin s'exprime devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour s'opposer à la guerre en Irak que souhaite mener George Bush. Ce discours sera suivi, ça vous le savez aussi, d'une ovation inattendue. Et c'est très rare parce qu'en principe, les discours, les ovations sont interdites dans la salle du Conseil de l'ONU. Je finis parce que, avec un dernier discours, parce que je vous sens en forme. Celui-ci est cette fois prononcé par une femme.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.
Simone Veil.
Quelle année ?
74.
Oui, quel mois ?
Alors là.
26 novembre 1974, vous le savez bien, ce discours pendant lequel Simone Veil était ministre de la Santé a permis l'adoption de la loi qui autorise l'avortement.
C'est sûr que ça résonne avec l'actualité.
Voilà, ça fait toujours du bien, des petites piqûres de rappel.
La force des discours, 20 prises de parole de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire. Gallimard Jeunesse, Jean Bulot et Aurélie Luneau et Vincent Bergier pour les illustrations. Merci beaucoup Héloïse.
Merci Nicolas.
Et je rappelle donc Fabrice Caro. Son nouveau roman s'appelle Samouraï aux éditions Gallimard dans la très belle collection Signe. Et je signale aussi une exposition à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. C'est à partir du 12 juillet. 400 mètres carrés d'exposition rien que pour vous, Fab Caro. Ça vous fout les jetons?
Un petit peu. Ça fait un petit peu...
C'est le temple, en plus, là-bas.
Ouais. Quand on m'a proposé ça, ça fait un petit peu fin de vie, truc, voilà.
Rétrospective. Voilà.
Ouais. C'est un petit peu flippant,
Et vous participez ?
Ils m'ont demandé de donner des originaux, de... après c'est eux qui s'occupent de tout, mais voilà, j'ai fourni un tas d'originaux, des anecdotes, des objets, des machins, mais après c'est eux qui gèrent tout ça. Ah, oui.
La classe. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
De nous voir dans La Voix est libre.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbelivien maintenant pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.